Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 555 du podcast J'en ai tué 555 avec Lucas Vola, bonjour.
Salut Alain et salut tout le monde.
Bon week-end de NFL Lucas.
Plutôt bon week-end de NFL, ouais. Il n'y avait pas beaucoup de matchs, enfin il y avait moins de matchs que d'habitude, il y avait 6 équipes en repos, mais c'est toujours sympa. On est dans le football de décembre, quand même, dirait les Américains.
Exactement, c'était la dernière semaine où il y avait des équipes au repos, ils en avaient mis 6 d'un coup, donc clairement 3 matchs de moins. Après, on va réattaquer quand même là sur des week-ends intenses, parce qu'il y a des matchs les jeudis soirs, samedi, dimanche, lundi, pendant 2 semaines.
On y arrive.
Ouais, donc là ça va être...
Ça veut dire play-off quand même, hein.
Ça veut dire play-off, ça veut dire Noël perturbé par les matchs. Là, ça va être épique hein, pour suivre les matchs pendant le week-end de Noël. Bon, en tout cas, on va parler de ça plus tard, on y arrivera dans deux semaines. Mais avant ça, on va parler de ce qui s'est passé en semaine 14. Et la semaine 14, elle a été rythmée par 3 affiches plutôt sympas. Dans la première, les Lions, plus impressionnants que jamais, les Cowboys qui se sont fait peur, et Tua Tagovailoa qui a disparu. C'est le programme de notre débrief des affiches du jour. Lucas, et on va commencer par les Lions et les Vikings. 34-23 pour les Lions, 5 victoires en 6 matchs pour Détroit. Leur seule défaite d'ailleurs sur les 6, c'est contre Buffalo, hein, donc il n'y a pas de honte. De manière très convaincante contre Minnesota, Détroit n'a jamais été mené dans ce match. Ils ont mené 21-7 dans le second quart, 28-13 dans le dernier. Ils n'ont pas paniqué en fin de match quand Minnesota s'est un peu rapproché. Ils ont même converti une 3ème tentative sur une passe au tackle Penny Sewell pour faire tourner le chrono en fin de match, donc tout allait bien pour eux. Lucas, on est face à une équipe des Lions qui a l'air en ce moment capable de battre tout le monde.
Ouais, là j'ai l'impression que tu m'as décrit une équipe de play-off quand même, hein. Une équipe qui maîtrise de bout en bout, qui panique pas particulièrement, qui a des bons joueurs, qui fait de belles actions. En effet, pour l'instant, les Lions, ils sont sur une pente très ascendante. Tu l'as dit, 5 victoires en 6 matchs. Et franchement, ils sont impressionnants. On le savait depuis le début de la saison. En tout cas, ils nous l'avaient montré en début de saison que l'attaque était très impressionnante. Ils avaient très bien commencé, puis ils avaient eu un petit coup de mou. Et puis là, ça a l'air de repartir très fort. Ils sont capables de battre des équipes comme Minnesota, qui est quand même l'une des fortes équipes de cette NFC, normalement. Donc franchement, pour les Lions, tous les voyants sont un peu au vert. Et si ça finissait en play-off, hein.
Ils gagnent ce match en étant très réguliers en attaque. Jared Goff est à 27-39, 330 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Jared Goff, il y a eu quelques articles ce week-end sur les médias américains qui disaient les Lions ne le considèrent pas comme un quarterback de transition, parce que c'était un peu l'étiquette qu'il avait en arrivant, hein. Il y a eu l'échange avec Matt Stafford, et puis bon, on va le tester un petit peu en attendant de drafter un mec, grosso modo. Est-ce qu'on se retrouve pas à se demander si c'est un franchise quarterback maintenant, Lucas?
Oula.
À minima, si tu le gardes, en tout cas l'année prochaine, parce que la question a plus l'air de se poser.
C'est vrai qu'ils pourraient le garder. Vu comme ils sont partis, ils sont pas particulièrement partis justement pour aller être haut dans cette draft en termes de choix.
En plus,
ce qui va leur changer de ces dernières années. Donc, est-ce qu'on continuerait pas comme ça en continuant de l'entourer? Parce que quand on voit les joueurs qu'il y a autour, pour le coup, on le répète assez souvent, il y a une ligne offensive qui est plutôt très bonne. Il y a DJ Chark qui continue et qui commence vraiment à prendre du poids. Amon-Ra St. Brown, on l'a dit, on le répète. fait, c'est un joueur de gros calibre. Il y a Jameson Williams qui est arrivé, qui fait qu'une réception, mais c'est sa première réception de la ligue et c'est de sa carrière, pardon, et c'est 41 yards et c'est un touchdown. Il y a un jeu au sol qui est efficace. Donc, est-ce qu'on continuerait pas de l'entourer et de créer peut-être une version 2022 voire 2023 des Rams qui avaient fait le Super Bowl avec Jared Goff, parce qu'on se rappelle ce quarterback qui fait le Super Bowl quand même.
Quand même, il a joué un Super Bowl. Il a encore 2 ans de contrat. Et franchement, moi, je suis impressionné au sens où, en fait, c'est un Jimmy Garoppolo. Tu vois, il est monté en fait dans cette classe des Jimmy Garoppolo, même un peu plus, hein, je trouve, sur cette saison. Il est au-dessus de Jimmy Garoppolo. Et on a souvent eu, je sais pas pourquoi, tu vois, on l'avait devant les yeux, ou peut-être qu'il est en train de se révéler. On nous a souvent demandé ces dernières années qui était le nouveau Alex Smith. Alors, je rappelle quand même, parce qu'on fait la blague depuis tellement d'années qu'il y a peut-être des auditeurs maintenant qui savent même plus qui est Alex Smith. Alex Smith, quarterback, et c'est là où en fait tu vois les similarités. C'est pour ça que j'ai ressorti Alex Smith du placard, mais drafté en première position comme Jared Goff, pas en réussite forcément en termes de niveau dans sa première équipe, qui était en Californie d'ailleurs aussi, puisque Alex Smith était 49ers. Qui va mieux une fois qu'il a un nouveau coach? En l'occurrence, c'était Jim Harbaugh qui avait un peu relancé Alex Smith, qui perd sa place. Jared Goff perd sa place face à Stafford, Alex Smith c'était face à Kaepernick, change d'équipe, Alex Smith s'était retrouvé aux Chiefs où il se relance complètement, et là en fait Jared Goff, bah, lui va aux Lions, se relance complètement sans Andy Reid, parce qu'en plus Alex Smith on pouvait dire il s'est relancé, il y avait Andy Reid, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait Jared Goff il est un peu en train de se construire cette carrière à la Alex Smith de mec régulier plus. On est d'accord, il est au-dessus d'un Garoppolo par exemple.
Ah oui, je pense qu'il est au-dessus d'un Garoppolo, et pourtant je suis plutôt fan de Garoppolo, je l'ai souvent défendu, mais cette année en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut le juger que sur cette année, parce que les années précédentes sont pas forcément reluisantes pour lui, mais cette année en tout cas il est au-dessus, parce que Garoppolo il a quand même fait, quand il fait des très bons matchs, c'est des matchs où il fait pas d'erreur, il permet à ses joueurs ou à ses coéquipiers bien aidés par Shanahan de prendre des yards après la réception, et puis il fait des bonnes lectures. Jared Goff il fait un peu plus que ça, alors c'est pas Patrick Mahomes, c'est pas Justin Herbert, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus que ça, il arrive à trouver des longs ballons, il arrive à être propre, après il est dans une situation très très bonne, comme l'était Garoppolo, mais c'est vrai qu'il fait un peu mieux, alors après, est-ce que la comparaison avec Alex Smith est judicieuse? Certainement. Maintenant, Alex Smith, ça n'a pas non plus été le franchise quarterback, ou du moins, c'était souvent la limite entre le franchise quarterback et le mauvais quarterback. C'était un peu celui qui était entre les deux. Peut-être que Jared Goff sera ça dans les années futures.
Mais typiquement, Smith, je trouve qu'il y a un truc qui est symbolique dans sa carrière dont on ne parle peut-être même pas assez, c'est qu'il était tellement ce quarterback qui est assez bon pour être titulaire, mais qui n'est pas transcendant, qu'il a fallu un Patrick Mahomes pour le remplacer, tu vois.
Clairement,
les Chiefs le lâchent quand Mahomes arrive, parce que il aurait pu être titulaire dans quasiment toutes les équipes, enfin pas celles qui avaient des Brady ou des Rodgers, mais voilà, c'est un très bon titulaire et qui symbolise un peu cette zone où les équipes ont peur de pas tomber, c'est-à-dire que tu peux avoir facilement moins bon qu'Alex Smith ou Jared Goff, mais c'est très dur de trouver beaucoup mieux.
Mais en même temps, tu te dis quand même que tu peux trouver, enfin que t'aimerais que ton quarterback soit meilleur. C'est vrai que c'est la situation. Alors c'est pas la pire, parce que on préfère être comme ça qu'à ne pas avoir de quarterback. Mais c'est vrai que c'est une situation difficile, parce qu'on gagne assez de matchs pour pas être très haut dans la draft. Donc on passe souvent à côté des très bons quarterbacks, mais on en gagne pas assez pour être prétendant au titre. Donc c'est vrai que c'est, espérons que les Lions soient pas comme ça, mais en tout cas c'est possible qu'ils continuent avec Jared Goff. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est une très belle victoire pour Détroit, qui a 6 victoires, 7 défaites maintenant, et qui va être dans la course aux playoffs. S'il faut mettre un petit bémol, parce que tout n'est pas totalement rose non plus, au sens où c'est quand même la 5e équipe de suite qui met plus de 400 yards aux Vikings. En face, il y a une défense qui a des problèmes, Lucas.
Oui, il y a une défense qui a des problèmes. Harrison Smith, le safety en plus, n'était pas là. Et on le sait, le safety des Vikings, et on le sait, il est extrêmement important. Et on l'a vu en son absence, alors c'est pas l'unique raison, mais parce que comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'ils prennent beaucoup de yards. Mais on a vu beaucoup d'incompréhension, notamment je parlais du touchdown de Jameson Williams. C'est une vraie incompréhension, une erreur de communication, ou du moins une erreur d'un des safety ou du corner, on saura jamais trop, mais il est complètement seul. Il y a DJ Chark qui marque des touchdowns. C'est vrai que, voilà, on voit cette équipe en défense qui est un petit, elle avait tenu la baraque en début de saison. C'est vrai que là, tu l'as dit, depuis quelques matchs, c'est un peu ce qui fait défaut. Habituellement, l'attaque arrive à compenser suffisamment. Là, l'attaque a compensé, mais pas suffisamment.
Oui, et puis, on l'a dit il y a quelques matchs, là, ils volent zéro ballon. S'ils ne volent pas de ballon, ils sont coincés, en fait, ces Vikings en défense ces derniers temps. Donc, c'est aussi là-dessus que ça se joue. Parce qu'ils gagnent aussi beaucoup de yards, hein, mine de rien. Kirk Cousins lance pour 425 yards. Justin Jefferson à 223 yards à la réception. Donc, bon, il y a toujours Justin Jefferson, il y a des playmakers. Il n'y avait pas de jeu au sol sur ce match parce qu'ils doivent courir beaucoup derrière. Mais voilà, et dans l'autre sens, bah, ils perdent parce qu'ils perdent de ballons. Et la défense des Lions, c'est deux équipes qui sont un peu miroirs en un certain sens. Mais en fait, la défense des Lions, elle a fait les turnovers qu'il fallait.
Oui, elle a fait les turnovers qu'il fallait parce qu'elle ne fait pas non plus un grand match dans le sens où, comme c'est tu ça. L'as dit, il y a beaucoup de yards qui ont été lancés. J'avais l'habitude de dire que quand Justin Jefferson est un petit peu maîtrisé, les Vikings ont du mal. Bon, pour le coup, personne n'a vraiment réussi à maîtriser Justin Jefferson sur ce match-là. Il dépasse les 200 yards, je crois. Il est à 223. Voilà, 223 yards. Donc, pour le coup, oui, ça a été très compliqué de défendre sur lui. Mais comme tu dis, bah, il y a eu ces pertes de balles. Alors, il y a un fumble de Dalvin Cook qui n'est pas forcément du fait de la défense, même s'il y a une pression, mais il y a cette tentative de passe un peu un trick play, mmh. Mais bon, voilà, il y a ce fumble là dans la partie de terrain des Lions, mais voilà, c'est des choses qui tombaient du côté des Vikings depuis le début de la saison. Ben, cette fois-ci, c'est tombé du côté des Lions, mmh. Et comme tu l'as dit, quand les Vikings, ils ont pas assez de marge, même contre une équipe contre Détroit, pour passer au-dessus de ça.
Détroit, ils ont débuté par une victoire et 6 défaites, inutile de te dire. C'est pas une stat incroyable, hein, mais aucune équipe qui a démarré par une victoire et 6 défaites n'a jamais joué les playoffs. Ça me paraît.
C'est pas aberrant d'imaginer ça. Hein. Quand on voit des équipes en NFC qui sont dans une dynamique plus compliquée, mmh. Vous en parlerez peut-être demain, mais notamment les Giants par exemple, ou mmh. On voit
Seattle
eux.
Seattle aussi. Hein.
Oui, Seattle pour le coup, Détroit est sur une bonne dynamique, on l'a assez répété. Et c'est un peu ce qui est le plus important quand t'arrives ces matchs-là. Donc c'est pas aberrant de penser que Détroit va être l'équipe qui va arracher les playoffs sur une 7e place à la fin de la saison.
Et vous en reparlerez dans la preview à venir, mais en plus au niveau du calendrier, c'est prenable, hein. Jets, Panthers, Bears, Packers.
Oui, sur la dynamique, c'est totalement prenable.
Sur la dynamique, ils peuvent être largement au positif et décrocher une place en playoff. En tout cas, c'est la belle histoire de cette semaine. C'est Lions complètement relancé. Derrière, toujours dans la NFC, on a failli avoir la surprise de l'année. Les Cowboys 27, les Texans 23. Les Texans qui ont mené une bonne partie du match. Ils menaient 23-17 au début du dernier quart. Ils ont même intercepté Dak Prescott à un peu moins de 6 minutes de la fin alors qu'ils menaient 3 points. L'interception, elle est juste devant la end zone des Cowboys. Donc on se dit, bon, bah c'est bon, ils vont mettre un dernier touchdown. Ça va tuer le match. J'étais déjà en train de demander qui avait pris les Texans sur Unibet parce que la cote était à 9. Et puis en fait non, la défense de Dallas a tenu sur les 4 tentatives et derrière très long drive de touchdown de Dallas bouclé par Ezekiel Elliott à 41 secondes de la fin. Dallas qui se sauve, ça a été très très compliqué. Lucas, on dit quoi ? On dit merci le dernier drive ou merci la défense quand même qui tient ce match avec ces 4 tentatives arrêtées en fait, hein, parce que c'est ça qui est décisif.
Oui, c'est l'ensemble, je dirais. C'est ces deux drives-là, ils ont été clutch, ils ont été décisifs dans les moments importants des deux côtés du terrain. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir du côté de Dallas, parce que tu l'as dit, le début de match, voire même la quasi-totalité du match, est un peu catastrophique. Et d'ailleurs, on l'a dit, ils sont pas passés loin de la catastrophe. Mmh. Mais si on retient quelque chose de bien du côté de Dallas, c'est que dans les moments chauds, les deux côtés du terrain ont su être décisifs. Tu l'as dit, 4 tentatives arrêtées vraiment dans les 5 yards adverses quasiment, alors qu'on se dit que bon, c'est plié, parce que si Houston marque là, c'est pour le coup plié. Et puis l'attaque qui fait 98 yards alors que ça faisait un bon moment qu'il n'y avait eu aucun point, aucun touchdown inscrit. Ça faisait depuis le début du deuxième quart-temps que Dallas n'avait pas réussi, que Dak Prescott était en difficulté. Il vient de lancer une interception, tu l'as dit, donc en termes de confiance, c'est pas ce qu'il y a le mieux pour aller chercher une victoire. Et pourtant ils sont clutch. Donc je pense que si on est Dallas, on essaye de se dire qu'on oublie le début de match et qu'on c'est un match sans et que c'est possible et que ça existe et qu'on retient le fait qu'on a réussi à l'arracher une victoire qui était normale, logique avant le match, mais qui finalement au regard du match était plutôt sympa à récupérer.
Ouais, en fait moi je suis pas du tout inquiet par ce match au sens où, bah, comme tu le disais, à la fin ils gagnent quand même. Comme il devait le faire. Dak Prescott l'a dit lui-même, il a dit on apprend plus de ça que des moments où on met une raclée à une autre équipe. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal pour une équipe de Dallas qu'on a souvent accusé de s'écrouler en décembre, janvier. Bon bah là, ils se sont pas écroulés, ils sont allés le chercher. Et en fait, si tu regardes la physionomie globale, ils gagnent quand même plus de 400 yards, ils sont à 8 sur 15 en troisième tentative, ils sortent le dernier drive de la victoire. Donc, il y a eu des trucs qui ne sont pas allés dans leur sens. Il y a quelques interceptions, il y a des maladresses, il y a de l'inefficacité. Voilà, ils ont marqué des field goals plus que des touchdowns. Mais en fait, à la fin, bah, ils doivent gagner et ils gagnent. Donc, j'ai l'impression que c'est le plus important, en fait, quoi, qui se termine comme ça. Tu vois, encore une fois, j'ai pas. Est-ce que tu as vu un motif d'inquiétude pour la suite, en fait ?
Non. Est-ce que ça aurait été pas tellement Dallas de mettre 50 points aux Colts la semaine dernière et d'aller perdre à domicile contre la pire équipe de la ligue ? Ça aurait été tellement Dallas. Si ça avait été le cas, on aurait dit c'est les Cowboys et de toute façon, c'est comme ça. Et pour le coup, on a l'impression que cette année, ils arrivent à se sortir de mauvaises passes, même si c'est eux qui s'y mettent, mais au moins ils arrivent à s'en sortir. On parlait tout à l'heure d'une équipe des Vikings qui avait perdu des ballons et qui n'avait pas réussi à surmonter ça. Pour le coup, ils l'ont fait. Alors là, ils jouaient contre une équipe un peu moins bonne. Et clairement, s'ils jouent comme ça, quand arrivent les matchs décisifs ou les playoffs, ça passera pas. Mais au moins, ils gagnent, ils continuent de se dire, bah, comme tu l'as dit, ils continuent de se dire, il faut progresser. On reste pas dans un état où on se complaît et on se dit qu'on est les meilleurs, parce que c'est le problème de Dallas parfois. Mmh. On se dit qu'on est meilleurs. Au contraire, on a à progresser, mais ça continue de gagner. Donc non, je vois pas particulièrement de motif d'inquiétude vraiment alarmant, si ce n'est que Dak Prescott ne devra pas lancer d'interception autant que ça sur tous les matchs, mais il nous a montré qu'il ne le faisait pas particulièrement. Donc non, je suis pas particulièrement inquiet, mais c'était sympa de les voir galérer un petit peu quand même.
Bah oui, on t'avait donné ce résumé de match-là en plus dimanche, on s'était dit bon bah pff. En plus il marque le premier touchdown, je m'en rappelle. Me dis bon bah c'est bon, Lucas il peut commencer son résumé pépère, il sera prêt à la mi-temps, ça va être tranquille.
Touchdown et three and out dans la foulée. Donc là on se dit bon bah allez on, bah, peut, c'est on ça. Peut c'est plié.
On se dit c'est bon, et puis en fait non ça a été beaucoup plus serré que prévu, donc au moins c'était fun. Du côté de Houston, alors bon, ils ont quand même sorti un match accrocheur, avec une tactique en plus spéciale, c'est qu'ils ont fait tourner en permanence ils ont fait tourner régulièrement leurs deux quarterbacks, Davis Smith et Jeff Driskel. Tu confirmes, toi qui as suivi le match en entier, il n'y avait pas un blessé, c'est qu'il tournait quoi.
Ah non, il tournait, et j'étais à deux doigts de titrer Jeff Driskel a fait chuter Dallas, et puis de mettre en sous-titre oui, vous avez bien lu ce que vous venez de lire. Mais en effet, ils ont fait tourner, c'était un peu la surprise. Alors ça n'a pas été dès le premier drive, c'est bien Davis Smith qui a commencé, et puis après ce trianap dont je parlais, il y a eu un punt manqué, c'est Jeff Driskel qui est rentré. Alors je pense qu'ils l'ont fait un peu jouer pour utiliser un peu sa course et ses jambes, malheureusement. Et c'était Mark Sanchez, le quarterback, l'ancien quarterback des Jets, qui était au commentaire. Malheureusement, il était là pour faire des read options, des jeux avec des options de lecture, et pour le coup il a quasiment à chaque fois mal lu ce qu'il fallait faire, s'il fallait donner le ballon au running back ou s'il fallait courir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Sanchez. Alors on peut douter de ce qu'on veut de la qualité de Mark Sanchez, mais bon, un ancien quarterback NFL qui est au poste de commentateur, il sait à peu près à froid s'il faut donner ou garder le ballon. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand il remontrait les ralentis, on se rendait compte que Jeff Driskel, il faisait souvent des erreurs, et notamment sur ce drive arrêté dont on parlait, ces quatre tentatives, il y en a une où il se trompe même de côté, où il doit donner le ballon à son running back. Bon voilà, ce sont des choses qui font que des petites erreurs comme ça, rajoutées, Houston ne peut pas gagner. Alors je ne mets pas tout sur le dos de Jeff Driskel, qui pour le coup a lancé notamment un touchdown aussi, qui a apporté un peu d'alternance, un Davis Mills qui n'est pas forcément non plus dans les meilleurs jours en ce moment. Mais voilà, c'est des choses, il manque du talent à Houston, on le dit depuis le début de l'année. Après, est-ce que c'est pas le meilleur match pour eux, c'est de faire un gros match et puis de perdre quand même pour rester bas dans la draft?
C'est ça. Je crois que tout le monde a eu ce qu'il voulait à la fin, en fait. Ils ont été valeureux. Et puis, après, ça donne des trucs improbables, hein, quand une équipe de fond de tableau comme ça fait un gros match. Chris Moore, qui a 29 piges, qui est en train de signer sa meilleure saison NFL, qui sort 124 yards sur 10 réceptions. Amari Rodgers, ancien remplaçant des Packers, qui marque un touchdown, qui prend 4 réceptions pour 57 yards. Bon, faut dire que les quarterbacks, on taquine un peu la rotation et tout, mais ils bossent quand même avec, voilà, Chris Moore, Amari Rodgers, Philippe Dorsett. Waouh! Il n'y a pas non plus un matos incroyable du côté de Houston. Et encore une fois, du coup, c'est logique. Les motifs d'espoir, ils ne sont pas peut-être plus en défense. Il y a Jalen Pitre, je ne sais jamais si on dit Pitré ou Pitre, qui s'est beaucoup montré en défense. C'est là-dessus qu'il y a leur qualité en ce moment. On a vu Damien Pierce en attaque et lui en défense. C'est un peu les deux hommes de la saison, quoi.
Oui, c'est exactement ça. Et puis tout de même, un chapeau peut-être à tirer du côté de la ligne offensive, qui n'est pas forcément la meilleure depuis le début de saison, on le sait, et qui a affronté une ligne défensive et en tout cas un pass rush qui a tout de même montré qu'il était efficace. Il y a zéro sac, je crois, pour Dallas. C'est aussi ça qui fait que cette équipe-là n'a pas réussi notamment à stopper exactement quand il voulait. Donc oui, il y a, comme tu l'as dit, il y a quelques motifs d'espoir. Il y a des bons joueurs des deux côtés du terrain. Il y a quelques trucs à en tirer. Après, voilà, c'est un petit peu... C'est c'est par parcimonie. Donc il va falloir compléter tout ça via les drafts de manière urgente. Ouais.
On termine avec les Chargers contre les Dolphins. 23-17, victoire de Los Angeles. On a parfois douté des Chargers cette saison. Et ben là, ils répondent avec un grand match. Justin Herbert, 39 sur 51, 367 yards, un touchdown. Ils sont pas beaucoup embêtés à courir, pardon. Quand il a toutes ses armes, Justin Herbert ressemble quand même beaucoup à un excellent quarterback, Lucas.
Ah, clairement, il ressemble au quarterback qu'on imaginait en début de saison. J'ai envie même de rajouter quand il est en forme physique et quand toutes ses armes sont
aussi
là, parce que en effet, c'est les deux choses dans la saison, ou en tout cas dans ce milieu de saison, qui nous faisait douter. Il y avait un peu cette douleur, je crois que c'était à l'épaule ou au coude, je m'en rappelle plus. Ils sont tous blessés au même endroit.
Au côte, je sais plus où il en
est. Au côte, oui,
aussi,
lui c'était les côtes.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Ça fait quelques semaines qu'on dit qu'il revient quasiment à 100%, qu'on le voit, et en effet, quand on rajoute toutes ses cibles et tout le matériel qu'il a autour, on parle de Keenan Allen, on parle de Williams qui fait un énorme match, on parle de tous les autres, même Austin Ekeler, tu l'as dit, qui ne court pas particulièrement, mais quand il faut courir et quand il le fait bien, et il apporte cette on va dire cette différence, pas seulement avec la passe. Donc en effet, ça ressemble à une très bonne équipe, ça ressemble à l'équipe qu'on imaginait en début de saison, et on parlait de dynamique tout à l'heure, ils peuvent rentrer dans une très bonne dynamique, et ça serait très bien pour eux en cette fin de saison.
Et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'ils ont bien tenu en défense, parce que finalement, ils sont pas si loin que ça devant au score. Et Miami revient à 3 longueurs au milieu du 3e quart, ça peut être une bascule. Et puis les Chargers répondent avec un field goal, surtout leur défense limite Miami à 2 punts et un field goal. Alors ils ont dit un peu après le match, je sais plus quel défenseur a expliqué, qu'en gros la tactique c'était d'occuper le milieu de terrain pour empêcher Tua Tagovailoa de trouver Tyreek Hill et Jalen Waddle, le forcer à lancer vers l'extérieur. Ça a marché. C'est parce que c'était la bonne tactique ou parce que Miami n'était pas dedans?
Ouais, ça a fonctionné, ça a mis de la difficulté. Pour ceux qui ont vu le match, on voit qu'il y a un des touchdowns, c'est Tyreek Hill qui récupère un fumble un petit peu par hasard et qui ensuite part sur un sprint où là on sait que personne ne peut le rattraper. Ensuite c'est un petit peu un jeu sur les extérieurs, il y a un deuxième touchdown, un jeu sur les extérieurs où le défenseur dont j'ai oublié le nom, qui fait un très bon match pour le coup et qui tombe un petit peu. Donc ils ont quand même stoppé de manière assez efficace Miami, et si cette tactique là était volontaire, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace en effet. Après on le sait, Tyreek Hill, même sur les extérieurs, il est incroyable. Après quand on coupe Jalen Waddle, qui lui pour le coup est plutôt dans le milieu du terrain, c'est vrai que ça libère un peu, en tout cas ça soulage un petit peu. Non, j'ai trouvé que les deux, Miami était certes pas forcément dedans, mais j'ai trouvé que les Chargers avaient été plutôt efficaces en défense.
Match assez catastrophique de Tua Tagovailoa, soit statistiquement ou dans l'impression. Il a 10 sur 28 pour 145 yards d'un touchdown. Il a complété quasiment juste un tiers de ses passes, à peine plus d'un tiers. Tyreek Hill, il est ciblé 10 fois, il en prend 4. Jalen Waddle, il est ciblé 4 fois, il en prend que 2. C'est un match à oublier. Mais est-ce qu'il y avait des signes alarmants? Qu'est-ce qui fait que Tua Tagovailoa est si hors du coup sur ce match?
Ça fait quand même plusieurs matchs que et même depuis le début de la saison, qu'il y a un jeu au sol qui est quand même difficile. Au début de la saison, on le disait, Mike McDaniel arrivait avec, c'était un peu l'arme offensive des 49ers, il savait un peu comment faire courir, il avait récupéré deux running backs qui en plus venaient des 49ers, et on se disait que ça allait être efficace. Et là, c'est vrai que ça disparaît quand même petit à petit. La semaine dernière, il joue contre San Francisco, qui est l'une des meilleures équipes dans ce secteur, donc c'est pas évident. Mais on peut pas dire de même des Chargers, qui est quand même en difficulté, et c'est presque historique face à la course. Et là, ils encaissent moins de 100 yards. Alors certes, les Dolphins sont derrière, mais tout de même, ils sont pas derrière tout le match. Et ensuite, on le voit, cette course-là, c'est compliqué d'instaurer ce jeu au sol. En plus, ils ont Wilson qui se blesse. Donc certes, tu as Tagovailoa était en difficulté, mais j'ai envie de dire, pour un quarterback qui est en plus relativement jeune, ça peut arriver, mais on voit que derrière, il n'y a pas de solution. Quand le quarterback est en difficulté, il n'y a aucune solution pour essayer de lui rendre la tâche un peu plus facile. On continue de le faire lancer et ça donne un pourcentage 10 sur 28. C'est quand même pas beau à voir.
Ça ralentit un petit peu hein, pour Tua Tagovailoa sur les pourcentages de passes complétées, notamment. Il a enchaîné là ses deux plus mauvais matchs. Sur le pourcentage de passes complétées, 54% contre les 49ers, 35% là seulement de passes complétées. Ça pique un peu du nez. Après, il y a toujours évidemment moyen de se reprendre. Est-ce que la priorité, ça semble être ça? Ça semble être de lui remettre un petit peu. Et encore, le jeu au sol, il n'est pas si défaillant que ça sur ce match. Il y a une moyenne qui est correcte. Est-ce qu'il se retrouve plus pris dans le scénario du match, tu vois, à se retrouver à lancer?
Aussi, c'est sûr que ça devient compliqué pour eux. Après, voilà, si on parle de dynamique, parce que c'est un peu le thème, j'ai l'impression, de ce podcast, mais quand on compare ces deux équipes, par exemple, Miami, c'est un peu plus compliqué. Alors, il va falloir se réveiller. Ça fait deux défaites consécutives. Alors, avant ça, ils battent des équipes comme les Browns, comme Houston. Mais là, quand ils jouent contre des équipes qui sont potentiellement playoffables, on voit que c'est pas évident. Ils vont jouer Buffalo, ça va être très important pour eux. Ils vont jouer ensuite deux autres équipes de leur division qui sembleraient être à leur portée, mais déjà ce match-là à Buffalo, enchaîner une troisième défaite consécutive, ça serait, j'ai l'impression que c'est peut-être le match le plus important de la fin de saison. Ça peut les faire basculer vers devant, comme ça peut les mettre au fond du trou.
Oui, il faut regarder un petit peu. Après, ça va encore bouger hein, au niveau de la course au play-off. Pour l'instant, ils sont sur la sixième place, ils ont un match d'avance sur les Chargers, sur les Jets notamment. On enregistre avant le match entre New England et les Cardinals, donc il y aura peut-être les Patriots aussi un match derrière, mais voilà, ça va être quelque chose à... C'est quoi la priorité pour toi à régler en fait avant d'affronter Buffalo?
C'est compliqué parce que on le voit, il y a rien d'alarmant vraiment parce que en effet, tu as Tagovailoa, c'est comme tu le dis, ça recule un petit peu, mais ça reste un quarterback qui a prouvé en début de saison pour et avec cette attaque là. Donc il y a rien d'alarmant, mais en même temps il y a des petites choses comme tu l'as dit. La ligne défensive a été bonne sur ce match-là, mais en effet on peut parler de ce jeu au sol parce que tu l'as dit, la moyenne n'est pas mauvaise, mais je trouve tout de même que c'est vraiment l'axe de progression pour libérer un peu Tua Tagovailoa. L'année dernière c'était intéressant. Cette année, on a vu que Tagovailoa a explosé, donc forcément, on a un petit peu abandonné ça. Mais je pense que, notamment s'ils ont l'ambition d'aller en playoff, il va falloir être un peu plus complet que ça.
On vous en parlerait peut-être dans la preview, mais le match Miami-Buffalo de début de saison, il avait quand même été assez what the fuck sur le scénario et sur le grand écart de stats. Je vous laisse ça pour jeudi, mais si tu veux aller jeter un œil de ce côté-là, les stats du premier match entre Buffalo et Miami cette année, gagné par Miami, sont assez étranges, on va dire, entre les stats et les résultats du match.
Je vais laisser le suspense aussi, mais j'ai l'iPad à côté, je viens de regarder, en effet, j'ai hâte d'être à jeudi.
Il s'est passé des trucs étranges, en effet. Eh bien, voilà pour le débrief des trois affiches. On se retrouve demain. Mais du coup, c'est une All Lucas Week, là, je suis en train de réaliser.
J'ai loupé une... Non, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a deux semaines. J'ai loupé il y a deux semaines. Je me suis dit que certainement, j'allais manquer aux gens. Alors, donc, du coup, j'essaye de me placer sur tous les podcasts.
Là, tu fais un grand chelem parce que donc demain, on se retrouvera avec Raphaël Masmejean en plus pour le débrief de tous les matchs restants. Il en reste 9 dans la semaine 14. Et puis, on te retrouvera jeudi matin pour la preview. Et cette fois, ce sera avec Victor Roulier. Tu seras à la présentation. C'est mon premier podcast off de l'année.
Est-ce que j'ai le droit de commencer par Hello Hello ou c'est copyright?
Tu peux.
Je commence par Bonjour Bonjour. C'est un Hello Hello, mais moins cher.
Tu fais comme tu veux. Je sais même pas quoi dire. Tu vois, tu m'as pris au dépourvu.
Surprise. Je déciderai ça au moment du générique.
Je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais en tout cas, voilà. N'hésite pas ou imprime ta patte comme tu le sens. Comme tu le sens.
Bon, merci. Ciao, ciao en italien.
Bah ouais, voilà. T'es plus près de l'Italie. Voilà, tu peux trouver ton truc. Bon, merci encore, Lucas. En tout cas, on se voit demain.
Avec plaisir.
C'est la fin de l'épisode 555. Je termine avec une petite dédicace parce que Pernel m'a envoyé un mail pour me demander de passer un petit bonjour à Anthony de sa part et de la part de toute l'équipe TDA. Et elle m'a demandé si on avait 14 secondes pour saluer Anthony. Donc j'ai pas compté, mais on doit presque y être. Donc on salue Anthony de la part de Pernel et on le remercie de nous écouter finalement. Apparemment, il était au Hard Rock Café. Donc voilà, merci beaucoup Anthony. Et on trouvait ça sympa. Je trouvais ce petit mail sympa. Donc je me suis dit, on va caler une petite dédicace dans l'émission. Merci encore. On se retrouve donc demain pour nous suivre évidemment tdactu.com. Vous avez tous les liens pour le podcast et pour les réseaux sociaux. À très bientôt. Très bonne journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où vous nous écoutez. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.